Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue ici dans votre station Ozone à Bordeaux pour cette rencontre avec Raphaël Pichon, chef d'orchestre, fondateur de l'ensemble Pygmalion, que vous connaissez bien ici à Bordeaux puisque depuis plusieurs années déjà il s'y est installé. Et justement, c'est la première question que je voulais te poser, Raphaël. Quelle est ton histoire avec la ville de Bordeaux? On va commencer par le commencement ici, étant donné que tu es né à Paris, tes origines familiales sont plutôt du côté de la Bretagne, n'est-ce pas, et du Finistère. Et donc, te voilà en Nouvelle-Aquitaine et bien installé à Bordeaux depuis plusieurs années.
Bonsoir Corinne, bonsoir à vous tous. Alors oui, effectivement, mon histoire avec Bordeaux, elle a débuté quand j'étais un jeune chanteur. J'avais 19 ou 20 ans, je démarrais tout juste une assez courte carrière de contre-ténor. Et j'ai eu beaucoup de chance de croiser sur ma route une figure importante qui était Gustave Léonhardt. Et Gustave Léonhardt a pendant quelques années, à la fin de sa vie, un peu accéléré un certain projet, notamment des projets comme chef d'orchestre, où il s'attachait le concours d'un ensemble vocal, qui était parfois un groupe composite de chanteurs qu'il avait connus ici ou là, et aussi notamment d'une amitié de longue date avec Michel Lapleny, qui avait cet ensemble Sagittarius, très attaché aussi à Bordeaux jusqu'à il y a quelques années, avant que Michel prenne totalement sa retraite. Et donc, j'ai eu la chance de me produire régulièrement pendant quelques années avec Gustave Léonhardt, qui avait aussi ses habitudes à Bordeaux. Il y avait à cette époque-là un certain nombre de personnes, une personne en particulier, qui est très attachée à faire jouer Gustave Léonhardt ici à Bordeaux. Et en fait, ça a été la découverte de cette ville que je connaissais mal. Et je dirais un vrai choc, d'abord pour ce qu'est cette ville, son patrimoine, sa beauté, j'oserais dire un peu sa beauté plastique, sa situation, la richesse de son patrimoine, de ses institutions. Et puis, petit à petit, j'y suis revenu 1, 2, 3, 4, 5 fois, et puis j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui m'ont fait découvrir finalement Bordeaux dans toute son étendue, et donc pour la première fois de traverser la Garonne et de découvrir qu'il y avait autre chose encore que ce patrimoine, et que c'était une ville avec aux multiples visages, et avec, je dirais, un lien extrêmement fort, central avec le passé. Un passé essentiellement 18e, parfois même 17e, et en même temps aussi une ville en totale mutation, une ville vraiment tournée vers l'avenir, avec cette rive droite, avec tout un passé industriel, avec aujourd'hui une sorte d'ébullition d'une ville qui bouillonne, qui se transforme, qui change, qui a à la fois été largement rénovée, réveillé d'une certaine manière, mais aussi qui est un peu bousculé par cette rive droite et pas que. Donc une sorte de, je dirais, de dynamique entre celle d'accepter son passé et d'en être et de l'arborer fièrement, et en même temps de se poser beaucoup de questions sur le futur, le présent, tout ça. Et en fait, tout simplement, je trouvais que c'était un miroir, un potentiel absolument inespéré pour nous, jeunes ensemble, parce que je retrouve exactement les grands piliers, les grandes dynamiques qui me semblent primordiales pour un ensemble comme le nôtre, Pygmalion. J'entends celui de faire vivre un patrimoine qui est d'ailleurs souvent du 17e ou du 18e siècle, et de se poser perpétuellement les questions du présent, du futur, d'un bouillonnement musical qui fasse en sorte que l'adresse à notre public soit réelle, palpable, et que nous soyons jamais dans une dynamique de musée, mais dans une dynamique extrêmement vivante, de la façon comment rendre toujours aussi présente, nécessaire, indispensable, le fait de jouer avec cette matière qui parfois a 200, 300, 400 ans. Et donc c'est comme ça que tout a commencé.
Alors, vous évoquiez Gustave Léonhardt qui jouait ici à Bordeaux. Où jouait-il à Bordeaux? Dans quel lieu exactement? Quel souvenir
Alors,
vous avez?
Très souvent au Grand Théâtre.
Au Grand Théâtre, d'accord.
Et je me souviens notamment de plusieurs récitals où il avait une partie tout seul et ensuite une partie souvent en dialogue avec, avec des chanteurs où ils pouvaient se mettre aussi à diriger. On avait même, moi j'avais un peu mes petites habitudes, j'adorais monter, je montais toujours tout en haut au paradis du Grand Théâtre pour pouvoir regarder Léonard jouer juste en étant... L'acoustique, c'est là où ça sonne le mieux, finalement, surtout pour du clavecin.
Puis on voit ses mains, je suppose.
Exactement. Puis alors, il avait ses petites habitudes avec des, vous savez, des mitaines, parfois même qu'il gardait même en jouant. Puis à cette époque-là, c'était déjà un monsieur avec un âge avancé. Mais ouais, c'est beaucoup de souvenirs.
Il avait investi quelques églises et quelques orgues ici à Bordeaux,
bien sûr,
vous savez ça.
Bien sûr, à Sainte-Croix, oui. Notamment.
Tout ça, d'accord.
Bien sûr. Et il y a eu aussi quelqu'un qui a beaucoup compté pour moi. Et ma première expérience à ses côtés a été bordelaise, c'est Jordi Savall.
Oui.
Et à l'occasion d'une production d'un Orfeo, là aussi grâce à Michel Lepleny, d'un Orfeo de Monteverdi, je ne sais même pas quelle année c'était, mais et qui était déjà là aussi au Grand Théâtre. Et c'était pour moi une sorte de rêve d'adolescent, un rêve éveillé que de me retrouver au milieu de ces gens-là. Il y avait Montserrat Figueras qui chantait, oui. Qui était la femme. Et la muse de Jordi Savall, décédée aujourd'hui, mais qui était si importante l'expression, oui. De Jordi Savall. Donc, moi, c'était un rêve incroyable.
Alors, vous évoquez, Raphaël, les différents lieux de Bordeaux qui sont si touchants et qui ont une telle histoire. Et vous les avez investis, ces lieux-là, notamment avec Pygmalion, mais aussi avec votre festival, donc depuis 2 années déjà, 2020.
Ouais.
2021, 2022.
Pas de 2022.
Pas de 2022. Ouais. On va avoir 2023. Donc c'est la troisième édition, n'est-ce
normalement,
pas
oui. Normalement,
du Festival Pulsation,
oui.
Qui visite ces différents lieux bordelais. Alors lesquels et pourquoi qu'est-ce qui vous attire? Ce sont les sonorités des lieux. Ce sont les pierres anciennes ou modernes. C'est comment faites-vous pour aller dans ces lieux-là? Alors on a parlé beaucoup de la base de sous-marin, n'est-ce pas,
ouais.
Par exemple, mais il n'y a pas que cet exemple.
Alors, on est une génération de musiciens qui est face à différents défis. Des défis qui ne sont plus du tout ceux des générations passées. Nous avons à la fois une grande chance, c'est qu'on bénéficie d'un héritage incroyable. On est un peu la troisième génération après ceux qu'on appelait un peu ces baroqueux, ceux qui, dans les années 70, ont accepté de se mettre un tout petit peu en marge du monde musical, pour retrouver une autre façon, une autre philosophie d'aborder la musique. Comme disait Nicolaos Arnoncourt, qui était une figure importante de ces générations, de réveiller l'âme atrophiée de certains répertoires, de bouleverser certaines habitudes, de dépoussiérer, de retrouver les sonorités originelles avec les instruments d'époque. Mmh. Mais je crois avant tout une question un tout petit peu de philosophie et de quelque chose d'un peu plus honnête, d'un peu plus direct, d'un contact un peu direct avec la matière, je dirais, musicale. Et notamment aussi avec la matière philosophique, mmh. que contiennent ces musiques et les messages qu'ils peuvent encore nous apporter aujourd'hui. Et donc, nous, à notre génération, on a la chance de bénéficier de cet héritage, mais on fait face à d'autres défis, des défis qui sont ceux du renouvellement de notre public, du renouvellement de notre approche, du fait que la musique classique aujourd'hui, évidemment, elle est un peu noyée dans un océan de propositions artistiques et musicales, ce qui est une très bonne chose, mais ce qui peut parfois mener à malheureusement une sorte un tout petit peu d'effacement ou de disparition de la musique classique comme une musique qui peut vraiment bouleverser votre vie, changer votre vie, la nourrir au quotidien. Et donc de devenir un tout petit peu anonyme dans cet océan de propositions où la musique fait partie de notre quotidien partout, qu'on le veuille ou non d'ailleurs, ou de façon consciente ou inconsciente. Et donc aussi un monde évidemment avec des difficultés budgétaires où la musique classique doit aussi répondre à certains défis pour continuer à exister, pour continuer à rêver, pour continuer à être ambitieux. Et nous, on est une génération qui doit faire face à beaucoup de ces paramètres, et il me paraissait important de trouver une réponse, d'essayer à notre modeste dimension, de trouver une réponse à tous ces enjeux à travers le faire, c'est-à-dire de se dire qu'une réponse qui tente de mêler un certain nombre de ces différents enjeux doit trouver une réponse par l'artistique, doit trouver une réponse par la création. Et donc l'idée de ce festival qui a été, je dirais, largement accéléré par le Covid et puis par l'envie irrépressible de remonter sur scène.
De retrouver le public, oui.
Et c'est se dire, voilà, comment convaincre ou reconvaincre un public, comment élargir ce public, comment s'adresser à un public jeune parfois ou à un public qui peut être loin de la musique classique, comment utiliser un potentiel extraordinaire à Bordeaux de lieux incroyablement inspirants, incroyablement avec une histoire parfois extraordinaire et qui peut appeler et qui peut inspirer des projets qui rentrent en écho avec cette histoire. Comment aussi imprimer, tenter une nouvelle géographie du concert et de la proposition culturelle. Quand j'ai une autre géographie, c'est-à-dire parfois il y a aussi ces syndromes où certains publics ont peur de venir, ce que je vais appeler un peu le triangle d'or, c'est-à-dire de pousser la porte d'une institution ici en plein centre de Bordeaux quand ils s'en sentent éloignés ou que ça leur fait peur, tout ça. Donc, et il y a aussi comment répondre à moi, quelque chose qui m'anime beaucoup, c'est l'idée de, je dirais, un peu de l'innovation artistique, c'est de se dire que l'exercice du concert, l'exercice de l'opéra ou du spectacle mérite d'être parfois un peu bousculé, ou en tout cas d'aller voir ailleurs si on y est, qu'on peut changer d'angle de vue, qu'on peut regarder certaines œuvres sous un prisme un peu différent, sous un angle un peu différent, et que tout ça, je l'espère, ne peut que nourrir et ne peut que participer à une sorte de grand laboratoire qui est, à mon sens, indispensable pour notre génération, un grand laboratoire, une grande expérimentation pour ouvrir de nouvelles voies, pour renouveler l'approche, pour conquérir, reconquérir ou nourrir un public existant ou un nouveau public et toutes ces questions-là. Et donc, c'est ça l'essence du festival de Pulsation. Et ça a été aussi largement, je dirais, exacerbé par découvrir la base sous-marine de Bordeaux. On y a donné, par exemple, un requiem allemand de Johannes Brahms, de façon un peu déambulatoire dans cet espace. Et vous voyez, le requiem de Brahms, c'est un bon exemple parce que la base sous-marine, c'est avant tout d'abord un lieu de mort construit par les nazis avec à peu près 700 prisonniers espagnols, si je ne dis pas de bêtises, qui seraient morts sur ce chantier, qui était un des grands points de départ avec Saint-Nazaire, Lorient, de la guerre de l'Atlantique. Mais c'est un lieu de mort et pourtant, c'est un lieu hautement spirituel d'une certaine manière. Ce sont des cathédrales de béton très impressionnantes, avec aussi cette sorte de, j'oserais dire, de sérénité, de calme extraordinaire qui règne à l'intérieur, de silence, de pesanteur du silence. Et donc, là, l'idée, c'était une œuvre en langue allemande, qui fait directement appel à une certaine mémoire. Une œuvre qui parle de réconciliation, dans une équipe de musiciens français mélangés avec un chorégraphe et un sonographe allemand, et dans une disposition où le public n'a pas à s'asseoir, il est autour de nous. On chantait parfois jusqu'à 10, 15, 20 centimètres de personnes de façon totalement anonyme dans le public, en plein moment, en pleine réouverture d'après Covid. Voilà, une expérience que j'espère, qui, je crois, était d'une intensité extrême, avec des moyens très simples. Donc voilà, la découverte de la base sous-marine. En juin prochain, nous allons jouer pour la première fois dans un endroit, je pense, totalement inconnu du public, qui est une ancienne gare de triage à Floirac, qui est juste après le pont de Pierre, qui est un lieu extraordinaire, magnifique, je crois très inspirant, et où l'idée va être d'y donner pour la première fois un opéra, dans une configuration totalement inouïe. Mais aussi des choses un peu partout dans la ville, mais ça peut être aussi, évidemment, une autre façon de se produire à l'opéra, une autre façon de se produire à l'auditorium, une façon de s'emparer de l'espace public, une autre façon de faire dialoguer les arts les uns avec les autres, une autre façon aussi parfois de dialoguer avec d'autres cultures, avec les musiques du monde, avec voilà d'autres. En fait, si vous voulez, en une phrase, l'ambition, c'est le festival de tous les possibles, qu'il soit du côté artistique ou du côté des publics.
Alors, à vous voir, effectivement, avec votre énergie habituelle, nous décrire ce festival Pulsation. Il y a pulsé sur les micros.
Pardon.
On comprend le titre, n'est-ce pas? On comprend le titre. Alors, on revient à Pygmalion et revenons sur Pygmalion et l'intitulé, enfin le choix de Pygmalion pour l'ensemble, pour votre ensemble, en 2006, lorsque vous avez 24 ans et que vous fondez cet ensemble. D'où vient cette idée de Pygmalion? Parce que dans Pygmalion, il y a évidemment toute l'histoire de Pygmy l'Allemand et de faire naître quelque chose, n'est-ce pas, et de modeler à votre souhait la matière sonore. Quelle est votre histoire avec cet intitulé Pulsation, on a compris, je crois.
Avec le, tu parles du nom même.
Du nom même de l'ensemble.
Alors, le souvenir d'un échec.
On s'attendait pas à ça.
Oui, tant mieux. Non, mais quand j'ai eu 18 ans, je suis rentré dans différents conservatoires à Paris, et je pense avec une certaine naïveté, j'ai été choqué, heurté. De la manière dont on était finalement très très peu en communication, les musiciens les uns avec les autres, les musiciens avec les danseurs. Je pense que j'arrivais avec une image peut-être presque un peu américaine. Je m'étais imaginé une sorte de campus, vous voyez, où on aurait l'occasion de rêver des projets, où on rencontrerait des gens de partout, tout ça. Et en fait, à cette époque-là, je crois que ça a beaucoup changé, même j'en suis sûr maintenant, ça a beaucoup changé parce qu'il y a de plus en plus de projets autour du collectif, des collectifs. Et les choses se sont vachement ouvertes. Mais à mon époque, il n'y a pas si longtemps, mais l'air de rien, c'était quand même déjà il y a 20 ans, les choses étaient très, très compartimentées. Mmh. Et donc, j'avais décidé de proposer, j'avais 18 ans, de monter un opéra de Rameau, un petit opéra qui s'appelle Pygmalion.
Ah voilà, donc il y a un lien entre l'opéra de Rameau et l'ensemble.
Et ce petit opéra avait l'avantage de ne durer qu'une heure, une petite heure, donc il n'était pas non plus trop ambitieux, l'orchestre n'est pas énorme, mais en même temps, il y a à la fois un orchestre, un chœur, des solistes et des danseurs. Et donc, j'avais tenté de monter un projet qui rassemblait un orchestre de différents élèves du conservatoire, des danseurs de tel conservatoire, des étudiants des arts déco et des beaux-arts pour réaliser les costumes, des étudiants de Sciences Po qui allaient s'occuper de monter un peu toute la partie, management du projet, avec l'école des techniques et métiers du spectacle pour tout ce qui était technique et régie et tout ça. Ouais, c'était un peu folle dingo. Et finalement, ce projet s'est un peu écroulé parce que c'était trop tôt et que j'étais... Voilà.
Et là, il faut préciser, à ce moment-là, tu n'es pas encore chef directement.
Non.
Voilà,
non.
Tu es chanteur, en fait. Étudiant en chant.
Ouais, je suis étudiant en chant, en clavier, enfin en orgue et en clavecin. Et je suis étudiant dans pas mal de disciplines théoriques.
D'accord.
Voilà. Et quelques années plus tard, l'idée du groupe chœur et orchestre se précise. Je pense que c'était quelque chose que je portais en moi depuis pas mal d'années déjà, depuis que j'avais 15-16 ans. Mais l'occasion se crée, ou on crée l'occasion, et il faut trouver un nom. Et c'est toujours difficile.
Voilà.
Et finalement, au souvenir de cette expérience de Pygmalion, ce rendez-vous manqué, alors, évidemment, il y a beaucoup de lectures possibles de la figure, du mythe de Pygmalion, de la façon dont il est rentré dans le langage commun. Pygmalion, évidemment, il y a une chose qui m'intéresse, c'est l'idée de cette matière dont ce sculpteur Pygmalion voue un engagement total pour rêver à ce que cette matière ressemble à l'objet total de ses fantasmes, en tout cas à la chose la plus aboutie et la plus belle possible. Et donc ça, on va dire que c'est le travail de répétition.
Mm-hmm.
Parce qu'on parle, quand on parle de cette matière, on peut parler de lumière, on peut parler de porosité, on peut parler d'aspérité, on peut parler de quelque chose qui est de l'ordre de l'artisanat, qui est très qui se modèle, qui petit à petit, où on a besoin d'épreuves avant d'arriver à un résultat. Ça, c'est le travail de répétition, et puis d'espérer que au moment du concert, de la même façon qu'Aphrodite a été touchée par ce Pygmalion et a accepté de donner vie à cette statue, et bien qu'au moment du concert, tout ce travail autour de la matière prenne vie et trouve son aboutissement avec le concert. Voilà, c'est un peu ça le. C'est comme je l'aime, à la fois un peu naïf et en même temps il y a un peu d'espace là-dedans. Et en plus, Pygmalion, aussi une chose toute bête, c'est que de la même façon que la musique est peut-être le langage le plus universel de notre monde, Pygmalion a le grand avantage d'être totalement universel et intraduisible dans toutes les langues.
Mais alors là, on est en 2006, donc c'est le début de Pygmalion. Avec quels travaux, comment tu as géré au démarrage la question des répertoires? C'est-à-dire, est-ce qu'il fallait, en tant que jeune ensemble et à l'âge de 24 ans, se positionner, je dirais, par rapport aux grands ensembles existants, par rapport aux autres jeunes ensembles, par rapport à, au souffle et à, la, à ton style personnel et à ceux des musiciens que tu avais rassemblés, ou par rapport à une histoire de répertoire? C'est-à-dire, qu'est-ce qui meut l'identité de Pygmalion au démarrage, hein, au démarrage?
Oui, j'entends. Pour être tout à fait franc, non, c'est que, enfin, j'avais pas ni le recul ni la. Enfin, je me posais pas les questions dans cet ordre, dans cet ordre-là. Les questions étaient plus, tout d'abord, l'évidence, le besoin et le souhait de réunir à la fois un chœur, un orchestre, et de travailler à la fusion de ces deux entités. Quelque chose qui est pas très franco-français, on peut le dire, parce que c'est vrai qu'en France, une culture orchestrale extraordinaire, une culture chorale. Mise à mal au cours des siècles.
Ou alors les deux séparés. On a des ensembles
voilà.
vocaux.
Voilà. Et puis des, alors, des bien sûr, des ensembles vocaux, oui, mais je parle culturellement chorale ou post-maîtrise, si on parle des maîtrises et toutes ces choses-là. Voilà, une histoire un peu en dents de scie. Et puis, depuis les années 80, 1980, je crois, un vrai regain pour le chant choral avec certaines grandes personnalités. Je pense par exemple à Laurence Equilbet, au travail d'Akshentus, à une époque où les chœurs professionnels, c'était voilà. Aujourd'hui, on a de plus en plus de très très bons chœurs, à la fois professionnels et amateurs. Mais en tout cas, l'idée de travail de fusion entre deux entités, où j'oserais dire le chœur est à l'égal de l'orchestre, était quelque chose.
L'objectif premier, c'était celui-là.
Voilà. Et le deuxième, c'était d'avoir un répertoire à deux têtes, qui me paraissait indispensable. C'était à la fois le répertoire sacré et le répertoire dramatique. Et pour ça, une évidence qui était Jean-Sébastien Bach et Jean-Philippe Rameau, avec d'abord le besoin de se confronter un peu à Bach avant d'arriver à Rameau, parce que Rameau, alors, Bach c'est de la musique très difficile, mais j'oserais dire que Jean-Philippe Rameau, d'un premier abord encore plus, par sa technicité, et cette idée, cette intuition qu'il était hors de question de foncer sur les chefs-d'œuvre ou de foncer sur quelque chose qui méritait un chemin qui méritait de se construire petit à petit, des outils. Voilà, on revient à Pygmalion et à l'atelier du sculpteur, de se construire des outils, des habitudes, un son, une patte. Et donc, cette idée, cette intuition de, on va dire, les couloirs des compositeurs, c'est-à-dire, est-ce que ne rôdent pas ici et là, sur le chemin des chefs-d'œuvre, d'autres chefs-d'œuvre, mais qui ne sont pas soit reconnus, soit qui sont restés un peu dans l'ombre, un peu tapis. Voilà, est-ce qui a été le cas avec ces petites messes de Jean-Sébastien Bach qui ont été les premières pages que l'on a abordées, qui sont des véritables chefs-d'œuvre, mais dont les dimensions étaient idéales pour nous comme jeune groupe.
Donc le groupe, c'est Jean-Sébastien Bach au démarrage, ensuite Rameau, ensuite il y a la musique italienne. Donc on ne va pas retracer toute l'histoire du répertoire. De Pygmalion, mais la question que je me pose aujourd'hui, c'est donc création 2006, et puis donc nous voilà à plus d'une quinzaine d'années d'existence de l'ensemble. Comment cet ensemble a-t-il évolué avec la question des musiciens au sein de l'ensemble? C'est-à-dire, il y a des personnes qui sont là depuis le début, des instrumentistes, puis d'autres, des pupitres qui ont beaucoup changé. Donc, cette question-là très précise de l'évolution de l'ensemble tant vocal qu'instrumental au niveau des personnes, je dirais, et quelle a été l'évolution esthétique aussi, parce que en une quinzaine d'années maintenant, on peut faire déjà une étape bilan, je dirais, au travers de tous ces répertoires.
Alors, une chose qui est sûre, c'est que quand je vous disais que je portais cela en moi depuis mes 15 ou 16 ans, j'en suis sûr, je ne portais pas du tout d'appétit ou de rêve lié au chef d'orchestre en queue de pie devant un grand orchestre symphonique, devant un grand répertoire symphonique. C'était quelque chose qui n'était pas du tout mon monde. Un répertoire qui me fascine, hein, mais qui c'était pas du tout mon monde. Et finalement, je viens pas du tout d'une famille de musiciens et j'ai eu la chance d'être face à la musique quand j'avais 9 ans dans une maîtrise. Et cette maîtrise, finalement, 50% de sa raison d'être, c'est la musique. Et l'autre 50%, c'est, je dirais, un peu naïf, mais l'aventure humaine. C'est-à-dire la nature du groupe, le groupe, façon de se développer, de s'affirmer, de s'épanouir par la musique au sein d'un groupe. Et donc, en fait, si j'avais, il y avait une chose que je voulais faire perdurer,
oui, c'est
par
cette
ce choix de Pygmalion, c'était cela.
Oui, le collectif.
Bien sûr, le collectif et la richesse d'une telle aventure. Sur 15 ans, évidemment, cette aventure, elle est parfois magnifique, elle est parfois aussi très heurtée, parce qu'il y a des moments difficiles, mais c'est des choses qui font partie de...
Qu'est-ce que c'est les moments difficiles d'un
Les moments difficiles, c'est les gens qui s'en vont, les gens dont il faut se séparer, les chemins qui se croisent, enfin qui auraient dû se croiser, qui ne se sont pas croisés avec certains musiciens. Ce sont des moments d'incompréhension, ce sont des moments d'erreur, ce sont je dirais une sorte de d'évidence et de logique et de peut-être même aussi de nécessité à petit à petit faire naître certains équilibres qui sont toujours très très fragiles quand on parle de musique, parce que
et d'être humain
qui sont très très fragiles, peut-être encore plus émancipés par la matière même de ce qui nous rassemble. La musique vous met à nu, elle touche encore plus quand on est chanteur, je dirais, elle touche à une partie de votre intimité, à quelque chose qui est presque un peu indicible. Donc elle amène obligatoirement aussi dans les contacts humains à des choses parfois voilà, très très fragiles, et ce qui peut évidemment donner, on l'espère, des moments, je parle du concert, pas que d'ailleurs, mais essentiellement du concert, des moments où cette fragilité et cette intimité permettent des moments totalement uniques. Mais dans le temps, elle peut aussi s'exprimer, voilà. Et puis il y a évidemment la partie tout ce qui est lié à l'orchestre et au chœur, et puis aussi il y a tout le développement de l'équipe qui est autour, qui est le nerf de un des principaux nerfs de la guerre d'une telle aventure. Je parle de l'équipe administrative, la structuration. Pour ça, moi, j'ai eu beaucoup de chance de rencontrer les bonnes personnes au bon moment.
Donc, si on revient à la question des étapes ou de l'évolution, il y aurait des grands moments importants liés à certains répertoires dans ces 15 années. Il y a des répertoires ou des projets qui soient lyriques ou
oui, bien sûr.
Qui ont amené l'ensemble vers autre chose, et quoi?
Bien sûr, je dirais, je penserais tout d'abord à une aventure un peu particulière, et qui est la naissance d'une affirmation de notre identité à vouloir explorer de nouvelles voies. Je pense à un projet qui s'appelait Trauernacht, et qui était en français Nuit de deuil, qui a été le premier projet qu'on a donné au Festival d'Aix-en-Provence, par l'intermédiaire de Bernard Faucroul, ancien directeur, compositeur, organiste, ancien directeur du Festival d'Aix-en-Provence, personnalité extraordinaire, et qui m'a fait confiance pour ce projet, qui m'a fait rencontrer une metteur en scène fascinante, elle aussi anglaise, qui s'appelle Katie Mitchell. Ça c'est un moment important, 2014 je crois. Je pense aussi à 2015, Dardanus, ici à Bordeaux, oui. Première grande production scénique mise en scène par Michel Faux, qui a été un peu notre vrai baptême de la fosse, donc c'est-à-dire notre vrai baptême du drame, de ce que c'est que l'exercice de porter une telle machine, la machine opéra, dans tout ce qu'elle a à la fois de saisissante et de complexe. Je pense aussi justement peut-être à des premières incursions chez Mendelssohn. Alors, on a toujours donné le répertoire romantique, mais on a pris notre temps. C'est-à-dire qu'on a toujours donné le répertoire romantique depuis toujours, mais d'abord qu'avec le cœur. Il y a toujours eu ce travail sur la cappella qui nous a nourris depuis toujours. Je pense à Brahms, à Mendelssohn, à Schumann, à Schubert. Et pour l'orchestre, c'est quelque chose que l'on s'est permis pour la première fois pour les 10 ans de l'ensemble, en 2016, avec Elias de Mendelssohn.
Elias, et d'ailleurs, c'était ici à Bordeaux.
Absolument.
À l'auditorium.
Absolument. Ouais.
Alors, donc, nous arrivons justement à cette question de répertoire romantique. Donc, l'identité de Pygmalion, en tout cas dans les disques, la discographie et pour le public, c'est surtout la musique baroque, d'abord, le 18e siècle. Et donc, il y a ce passage avec la musique romantique allemande, essentiellement. Donc, on a parlé du Requiem allemand de Brahms, le dernier projet autour de Schubert, Schumann et Weber qu'on a pu entendre ici à l'auditorium. Comment est-ce que ça se passe pour les musiciens au sein de l'orchestre? Est-ce qu'ils changent d'instrument? Est-ce que l'instrumentarium est aménagé? Est-ce qu'ils s'y sont mis eux-mêmes directement, ou est-ce que c'est, tous ces musiciens qui travaillent dans l'ensemble Pygmalion sont habitués maintenant à changer d'instrument et à passer à des instruments du 18e pour des instruments du 19e siècle? Comment s'est fait cette mutation pour le répertoire?
Alors oui, ça c'est une vraie question, parce qu'effectivement, puisque nous jouons sur instruments d'époque, que nous voulons toujours retrouver les instruments utilisés, connus par les compositeurs au moment de leur création, on a effectivement cette spécificité à ce que les instrumentistes déjà possèdent eux-mêmes les instruments, ou en tout cas se les fassent prêter, et ensuite on est suffisamment l'expérience, les à peu près apprivoisés, domptés, avant même de se poser la question de réussir à ce qu'on ensemble on les fasse s'épanouir ensemble. Alors, il se trouve que depuis 30 ans, 40 ans, j'oserais dire, donc il y a d'un côté les instruments dits baroques, mm-hmm. avec ce diapason qui a été ensuite positionné autour de 415, mm-hmm. donc à peu près un demi-ton plus bas que le la que l'on connaît aujourd'hui, et aujourd'hui tous les musiciens qui jouent sur instruments d'époque ont une vraie connaissance et ont dompté les instruments baroques. C'est une chose qui est presque acquise, j'oserais dire. Est venue assez vite après l'idée des instruments dits classiques. Donc là, je pense à Mozart essentiellement, à Haydn, voilà, toute cette même au jeune Beethoven. Alors déjà Schubert, c'est déjà on commence à parce que si vous voulez, pour jouer sur instruments d'époque, c'est une série de compromis. Le la n'a jamais vraiment été à 415 à cette époque-là. Il était à plein de hauteurs différentes en fonction des villes. Tout ça est un capharnaüm pas possible. Donc il faut faire des compromis. Mais donc tout ça pour dire que tout ce qui est cette époque, j'oserais dire pré-romantique, autour de Mendelssohn, de Schubert, du dernier Beethoven, de Brahms, là on touche à un moment où la facture évolue énormément. Mmh. Et donc, il y a beaucoup de la question liée aux instruments, et il y a beaucoup aussi de questions liées au diapason, avec une hésitation entre ce qu'on va dire 430, le fameux diapason à 430 classique, et le diapason qui va se rapprocher de celui d'aujourd'hui, 438, avec ce qu'on appelle aussi les instruments viennois. Alors, tout ça est un peu technique, mais tout ça pour dire que tout ça est c'est pas une zone d'ombre, parce qu'il y a beaucoup.
Mais de recherche,
encore. Voilà, il y a beaucoup de recherche, et c'est pour les musiciens encore une zone un peu d'exploration. Je peux donner un exemple très concret. Demain soir, on va donc donner cette symphonie Lobgesang de Mendelssohn. Où, on va dire, les stars un tout petit peu de l'orchestre dans cette symphonie, ce sont les trombones.
Qui débutent d'ailleurs l'œuvre.
Qui débutent la symphonie tout seul et qui la terminent tout seul. Nos trois trombonistes jouent finalement pour la première fois, alors que ce sont des gens très aguerris pour certains, jouent pour la première fois, ils ont décidé de faire le pas, d'essayer de tenter autre chose, et donc des trombones qui ont une technique qui demande une technique totalement différente, qui ont un son totalement différent et qui, à leur sens, se rapproche beaucoup plus de ce que cette partition exige, de ce qu'aurait pu être la sonorité de cette époque-là et tout ça. Donc c'est quelque chose qui est toujours un peu en mouvement.
Alors, prenons encore un exemple très précis. Par exemple, l'exemple des corps. Parce que la question du corps, c'est passionnant. Le corps a donc un tuyau sans piston à cette époque-là, autour de 1800, n'est-ce pas? Et puis on commence à inventer des palettes qui permettent de jouer dans tous les tons sur cet instrument. Et au moment même où on invente cet instrument, il y a des compositeurs comme Weber, par exemple, qui louent la fabrication nouvelle et puis le positif qu'apportent ces palettes, n'est-ce pas? Mais qui préfèrent conserver les corps naturels, les corps anciens, pour le timbre. Parce qu'à chaque fois qu'on gagne quelque chose, avec la facture, on perd autre chose. Et donc, la question des corps est fascinante à poser à un chef d'orchestre, parce qu'on peut adorer, le positif et l'apport technologique sur un instrument, mais aussi regretter la perte qu'on pourrait avoir par rapport au coloris, par exemple, ou à une autre. Quelle est ta position avec la question des corps quand tu es dans un répertoire romantique des années 1830, 40, 50 et même Brahms, qui est bien plus tardif?
J'ai pas vraiment de position parce que finalement je m'en tiens aux choix qui ont été faits par les compositeurs. C'est-à-dire que si c'est une bonne question parce que le corps finalement la cohabitation du corps dit naturel, sans palette, sans piston,
oui,
avec toutes les dernières innovations, mais ça a été une cohabitation qui a duré jusque très très tard.
Et que Schumann a mis en valeur dans une œuvre, n'est-ce pas ?
Absolument.
Qui est une œuvre à concerto pour corps mélangé.
Bien sûr. Exactement. Et il y a même beaucoup d'autres exemples. En début de saison, on a ouvert notre saison, nous, avec une, aussi un peu une nouveauté pour nous, une incursion dans le répertoire romantique français très tardif. On a donné à l'Opéra Comique à Paris une nouvelle production de L'Acmée, de Léo Delibes. Eh bien, Delibes, dans cette L'Acmée, demande aux cornistes d'utiliser pour certains numéros des corps à palette, et pour certains autres numéros, notamment deux très beaux solos, un corps naturel.
Donc là, on a, vraiment les sources.
Voilà, et finalement, les compositeurs à cette époque-là, comme vous dites, comme tu le dis, on se souviennent de ce que le corps naturel est capable de créer comme atmosphère, comme couleur, comme univers sonore, et par ce souvenir, certains savent très bien utiliser pour tel moment un corps naturel, et voilà. Et donc c'est presque un peu plus tard encore que le corps naturel disparaît complètement pour laisser s'installer le
corps à palette qu'on va appeler moderne. Voilà. Donc ça y est, on commence à parler de Felix Mendelssohn et de ce répertoire romantique allemand qui t'est cher. Donc demain soir, la symphonie numéro 2, l'Obgesang, qui est vraiment un ovni, hein, n'est-ce pas, dans l'histoire de la musique, une symphonie tout à fait particulière, puisque c'est une symphonie composée avec l'orchestre, un chœur et trois solistes. Hein. Alors, on va parler maintenant, pendant un bon moment, de cette symphonie en introduction au concert de demain soir. Mais avant, je voudrais reposer un petit peu le cadre de Mendelssohn, quand même, pour comprendre cet ovni, n'est-ce pas ? Donc Mendelssohn, on est en 1835, il arrive à Leipzig où il est Kapellmeister du Gewandhaus, il est chef d'orchestre, et il fait aussi toute la programmation du Gewandhaus à Leipzig. Il va être fondateur du conservatoire à Leipzig aussi. Mais ce qui est important, c'est que dans ces années 1835, il va mettre en place des concerts historiques au Gewandhaus. Donc il donne les grands oratorios de Handel, bien sûr. Il donne Bach, évidemment, dans cette ville qui est la ville de Jean-Sébastien Bach, mais aussi des musiques italiennes du XVIIIe siècle. Et donc, il présente au public des concerts historiques. Donc, la première question que je voulais te poser, c'est est-ce que tu sens dans cette œuvre qui date de 1837, 1838, enfin, création en 1840, en tout cas, la symphonie L'Obgesang demain soir. Donc, cette œuvre-là, est-ce que tu sens dans la partition des résurgences de ces répertoires anciens, de ces grands répertoires de chœurs et anciens du XVIIIe siècle, ou non ? Est-ce que tu tends la partition vers l'arrière ou vers devant ?
Tout à la fois, je crois. Tout d'abord, je dois avouer que je reste un peu... J'ai du mal à saisir, à comprendre pourquoi cette partition a un peu disparu. C'est une partition totalement inconnue, finalement. Très peu donnée encore un petit peu en Allemagne.
On va peut-être faire un test parmi cette assemblée très nombreuse ce soir. Donc on va pouvoir voir vos mains levées. Qui a déjà entendu la symphonie numéro 2, l'Obgesang de Mendelssohn en concert ?
Je crois que c'est...
Moi, je ne vois aucun bras levé. Aucun bras levé. Donc, c'est une grande première demain. Là, on en est sûr à Bordeaux, en tout cas.
C'est un véritable chef-d'œuvre. C'est un véritable chef-d'œuvre. On pourrait se poser un petit peu la question pourquoi elle ne s'est pas imposée.
On va se la poser, oui. Pourquoi ?
Mais tout ça pour dire
on va décrire cette symphonie. Ouais. Demain, on l'écoutera. Mais on va traiter aujourd'hui quand même la question de pourquoi cette symphonie n'est pas si programmée.
Mais juste pour répondre à ta question, je crois qu'elle est une fusion de cette personnalité extraordinaire qu'est celle de Mendelssohn. Je pense notamment à cette sorte de générosité qui, à mon sens, définit sa musique. Et donc, c'est une fusion de sa fascination pour Bach. C'est une
évidence.
C'est une évidence.
D'accord.
Pour Handel, oui. Je parlerai. Alors, pour Bach, je parle notamment par la richesse des fugues qui composent la symphonie L'Obgesang et du traitement contrapuntique de cette œuvre. Je pense à Handel, bien évidemment, pour aussi cette théâtralité qui est un peu inhérente à toute cette œuvre, à une construction absolument, une architecture dans cette œuvre, alors qu'on peut aussi, évidemment, qui touche aussi à la personnalité de Jean-Sébastien Bach. Je pense aussi au compositeur italien, parce que je trouve qu'il y a une vraie signature avec, Félix Mendelssohn. C'est un peu comme la musique de Gabrielli, c'est un peu comme la musique vénitienne.
Avec les chœurs.
Alors, c'est pas tant là, parce qu'il n'y a qu'un seul chœur dans, dans l'Obgesang, mais je pense plutôt à cette capacité à faire sonner un chœur avec rien. C'est-à-dire que Gabrielli, très souvent, la signature de la grande musique italienne de cette époque-là, ou même d'un certain Monteverdi, c'est qu'il y a deux ou trois accords. Ce que je veux dire, c'est qu'on utilise rarement plus que deux ou trois accords, et pourtant, c'est juste une question de science, de disposition des voix, et qui font que cette musique a un espace, il y a une jouissance, il y a quelque chose d'extraordinaire dans la façon dont ces voix sonnent les unes avec les autres, juste par la disposition de ces accords. Et je trouve en ça que Félix Mendelssohn est le plus italien des compositeurs allemands de son temps, parce qu'il y a, cet espace, cette générosité du son dans toute son écriture chorale qui me semble très italienne. Et il a fait un grand voyage en Italie. Est-ce que ça vient de là, un voyage en Italie qui l'a beaucoup marqué? Est-ce que voilà.
Alors, on va décrire cette symphonie. C'est curieux. Elle commence comme toutes les symphonies de l'époque, c'est-à-dire avec une introduction un peu dramatique et un premier mouvement allegro. Il y a un deuxième mouvement à six suites qui est une sorte d'équivalent de scherzo léger. Il y a un troisième mouvement adagio religioso, on va en reparler. Et puis, arrivé au quatrième mouvement, démarre une cantate. Hein, on peut appeler ça comme ça. Débute là avec un grand chœur, une partition qui va durer 45 minutes et qui se compose de 9 morceaux différents que sont des récitatifs, des airs, des duos, des chœurs, des airs avec chœur composé, n'est-ce pas, dans des compositions très différentes. Donc en tout, on a une œuvre qui dure 1h20.
1h15, oui.
1h15 d'un seul bloc, puisque tout s'enchaîne, et même les trois premiers mouvements. Donc voilà pourquoi on l'appelle OVNI. Alors, est-ce que tu conçois cette partition étrange, hybride, comme s'il y avait deux genres agglutinés, vous voyez, une symphonie d'un côté, puis une cantate? Est-ce que tu le penses comme une symphonie qui finit par un final comme la 9e de Beethoven, avec grand chœur, donc on va dire une symphonie augmentée, ou vraiment la fusion de deux genres, c'est-à-dire symphonie et une cantate en dernier mouvement? Est-ce que tu le penses cantate, ou est-ce qu'on est encore dans la symphonie?
Alors, Mendelssohn est quelqu'un qui est mort assez jeune, qui a connu quelques déceptions, quelques échecs, et sa dernière symphonie en date était déjà une symphonie avec à message. C'est la symphonie qu'on appelle la symphonie Réformation. Mmh. On va pas rentrer dans, parce que ça serait long de peut-être tout développer tout cela, mais Félix Mendelssohn vient donc d'une famille juive. Par l'intermédiaire de son père, qui décide convertir à la foi chrétienne, quelque chose qui est, vous le savez, encore à cette époque-là, un acte qui n'est pas anodin, qui n'est jamais simple, qui peut être, surtout quand on devient un personnage public petit à petit, quelque chose qui reste dans l'imaginaire des gens, qu'on vous reproche. On vous reproche évidemment un possible manque de sincérité, d'opportunisme à de telles décisions. Et donc Mendelssohn avait composé une symphonie qui s'appelait Réformation, et donc vous aurez compris qu'il faisait déjà appel à une célébration autour de Luther, mais une symphonie qui se limitait à l'orchestre. Cette symphonie, elle est mal accueillie. C'est une douleur pour lui. Un certain nombre d'années passent et arrive ce grand festival pour célébrer les 400 ans de la naissance de l'imprimerie, de l'invention de l'imprimerie par Gutenberg.
Donc 1840.
1840. Et on va faire une grande fête, 3-4 jours de festivités, et on va commander à Mendelssohn la grande musique pour ouvrir ces festivités et pour les terminer. Mendelssohn, on peut imaginer, se dit voilà une occasion extraordinaire, peut-être de renouer avec quelque chose, de retenter quelque chose qui va devoir trouver une expression suffisamment universelle pour célébrer à la fois une fête profane, on parle de la naissance de l'imprimerie, mais finalement une fête qui est profane, mais qui est fondamentalement religieuse, puisque le premier livre qui a bénéficié de cette naissance et qui est une sorte de naissance au monde, c'est la Bible, évidemment. Donc le livre phare de cette naissance de l'imprimerie, c'est la Bible. Et donc de trouver une célébration qui va à la fois embrasser, je dirais, quelque chose d'hérité du siècle des Lumières, un hymne à la lumière, et qui va nous permettre de célébrer à la fois l'obscurantisme, des ténèbres où règne un total obscurantisme, et ce moment où la lumière est possible, ce moment où le savoir permet la lumière, et où une sorte de transcendance, de grand hymne à la lumière, et qui va à la fois embrasser la question de la foi, et une célébration de cette foi, et de la réponse, de la lumière venue de la foi, et à la fois la question de la naissance de la naissance au monde du savoir par l'imprimerie. Donc voilà.
Oui, bah, il faut préciser que l'œuvre va être donnée dans l'église Saint-Thomas
de Leipzig, qui est autre que l'église de Jean-Sébastien Bach.
Voilà, pour amener un argument lié au protestantisme,
bien sûr,
au choix du texte.
Exactement, mais donc l'événement, si vous voulez, il est incroyable.
Mais oui.
Il est incroyable, il est une opportunité extraordinaire. Et là, il y a cet instinct de Mendelssohn, qui, on peut le dire, qui est quand même assez culotté pour cette époque-là. Alors, il y a un précédent très célèbre qui datait de 1824, donc il y a déjà quelques temps, c'est la 9e symphonie de Beethoven, qui sera peut-être d'ailleurs une des raisons pour laquelle aujourd'hui la Lobgesang est un peu passée, a été un tout petit peu mise sous le tapis, parce qu'elle a trop longtemps, on a voulu la comparer à la 9e de Beethoven, alors que c'est deux expressions complètement différentes, qui d'ailleurs, d'une certaine manière, véhicule un peu le même message.
La lumière. Le passage à la lumière.
Alors, il y a cette teinte liée plutôt à l'expression de la fraternité entre les peuples, très, très, très présente chez Schiller et très présente chez Beethoven, qui n'est pas dans la Lobgesang. Mais voilà, donc tout ça pour dire qu'il invente cette forme un peu hybride. Et pour répondre à votre question, à ta question,
c'est parce qu'on est nombreux.
C'est le décorum qui fait qu'on... pour répondre à ta question... Mendelssohn y répond pour nous parce qu'il y a certains échanges avec notamment avec son éditeur avant que cette pièce puisse voyager pour atteindre Londres et l'Angleterre.
Où elle aura succès.
Où elle aura grand succès.
On adore à Londres cette pièce.
Et tout ça pour dire que Mendelssohn nous dit, bah voilà, en fait, ce grand hymne à la lumière, il va falloir que l'orchestre d'abord le chante à sa manière et le célèbre. Et puis, parce que pour être sûr de convaincre, il n'y a rien de mieux que les mots et que le chant. Et bien ensuite, on ajoutera aux forces orchestrales la masse des voix dans leur expression collective par le chœur ou dans leur expression individuelle par les solistes. Donc en fait, je me pose pas cette question de savoir est-ce que c'est une symphonie machin. En fait, je m'en fous parce que je pense que c'est justement ce qui fait la force de cette œuvre. Parce que Mendelssohn lui-même avait du mal à la classer.
C'est ça, parce que c'est même pas lui qui donne le titre de symphonie cantate. C'est-à-dire là, on est dans la question des genres, n'est-ce pas? J'insiste sur cette question-là, parce que c'est peut-être ça qui lui cause du tort.
Exactement.
Comme on ne sait pas comment la classer.
Bien sûr.
Alors les programmateurs se disent, si c'est une symphonie, mais oh là là, il faut un chœur et des solistes. Alors si, et puis le message est religieux aussi, car on est les textes, Lobgesang veut dire chant de louange, n'est-ce pas? Et les textes sont piochés à l'intérieur de la Bible.
Absolument. Ce qui est quelque chose d'assez gonflé à cette époque-là encore. Peut-être à l'époque romantique, l'expérience la plus célèbre de ce genre de montage, c'est le Requiem allemand de Johannes Brahms. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que, entre guillemets, démanteler des textes de l'Ancien Testament, ou même éventuellement d'en faire cohabiter avec certains du Nouveau Testament, et de faire soi-même son marché...
Plus des chorales.
Alors,
donc des textes de cantiques.
Oui, plus un choral, parce que tous les autres sont des faux chorales que Mendelssohn invente pour... Enfin bon, hein, mais... Eh bien, tout ça pour dire que c'était un exercice encore qui avait été un peu oublié, parce que c'est un exercice qui a beaucoup existé au XVIIe siècle, ça tu le sais toi mieux que personne. Je pense par exemple à Heinrich Schütz, qui avait pour le premier composé une sorte de requiem qui s'appelle les Musikalische Exequien. Tout ça pour dire que voilà cette idée, je vais pouvoir délivrer un message plus personnel qui va représenter exactement ma propre représentation, ma propre va pouvoir épouser le théâtre de ma pièce, parce que l'Obgesang, avant tout, c'est une mise en scène, en fait. C'est une incroyable...
Il y a quelque chose de dramaturgique.
Bien sûr, il y a une dynamique qui est, je dirais, assez naturelle et évidente, qui est celle de démarrer avec une expression presque éblouissante, aveuglante de lumière, pour ensuite, petit à petit, entrer dans la nuit et entrer dans la pénombre et réveiller la question du doute, réveiller la question du cri, réveiller la question de ces âmes errantes et ces âmes en peine qui cherchent un sens, cherchent une réponse, sont dans cette quête inlassable, jusqu'à entendre un premier élément de réponse, et que ce premier élément de réponse, petit à petit, permette le retour à nouveau de la lumière avec un effet extraordinaire, où là, on a, comme souvent, ces moments un peu d'épicentre, ces moments un peu clés dans une œuvre. Et là, c'est un air de ténor qui est extraordinaire, qui, lui, pour le coup, ne regarde pas du tout vers le passé. On a déjà un peu l'impression d'entendre du jeune Wagner, ou en tout cas du Weber, un air très opératique, où là, on est dans un imaginaire étrange, parce qu'on convoque à la fois un imaginaire qui est profondément religieux, mais on convoque aussi une sorte d'imaginaire un peu orphique, où on pourrait imaginer Orphée tapant à la porte de l'enfer, questionnant Cerbère ou Pluton sur la possibilité de sortir de l'enfer à nouveau. On nous parle d'un veilleur. Alors, il y a toute cette imagerie très célèbre à cette époque-là, des choses un peu plus naturalistes. Je pense à la tempête marine. Ça, donc on finit sur un point d'interrogation. La lumière, enfin, la nuit pourra-t-elle s'achever? Et là, il y a un grand silence avec juste la soprano a cappella qui nous dit la nuit est passée, revoilà la lumière, avec un sorte ensuite de déferlement du chœur et de l'orchestre. Donc c'est vraiment une œuvre extrêmement théâtrale, extrêmement bien construite, avec des mélodies inoubliables. Je pense au deuxième mouvement, au fameux scherzo, avec des... Et je crois aussi, enfin, en tout cas moi ça me frappe depuis qu'on répète, je pense que cette œuvre a très largement influencé Johannes Brahms dans l'écriture de son Requiem allemand. Je vois beaucoup de parenté à beaucoup d'égards, à beaucoup d'endroits, avec deux personnalités fondamentalement différentes, mais...
Ils ont peut-être un point commun dans le sens où ils ne se sont pas épanouis ni l'un ni l'autre dans l'opéra, dans le domaine de l'opéra. Même s'il y a eu des essais, même s'il y a eu beaucoup de Singspiel, des partitions théâtrales chez Mendelssohn, mais l'un et l'autre n'ont pas brillé ou n'ont pas souhaité tout simplement consacrer du temps à l'opéra, n'est-ce pas? Oui. Et on est là dans des grandes formes qui sont des formes oratoriaux, on va dire des genres non représentés, qui est peut-être un point commun entre les
Absolument.
Deux.
Absolument.
La grande cantate, les grandes cantates de Brahms également.
Absolument. Et puis, je pense aussi à un rapport à la voix, un rapport à la, je dirais un peu aussi à l'expression collective, à celle de la. On est loin effectivement de la. On est loin de l'opéra parce que je pense que ce sont des gens empreints de questions liées à la communauté. Et tous les deux des grands chefs de chœur qui ont beaucoup dirigé de chœur. Oui. Brahms aussi, qui a beaucoup écrit, il y a un répertoire extraordinaire choral. Alors pour le coup, il n'y a pas toutes ces esquisses. On peut penser aux cantates chorales, aux psaumes de Mendelssohn, beaucoup de choses qui ensuite vont permettre la naissance d'Elias, de Paulus, de l'Obgesang.
Voilà, alors Paulus, justement, ça précède l'œuvre que vous allez entendre demain, précède la l'Obgesang. Hein,
oui.
Et alors, revenons aux questions d'effectifs. On a quand même des sources concernant la Lobgesang. On sait que donc c'était pour cette grande fête des 400 ans de la naissance de l'imprimerie, avec vraisemblablement, d'après ce que disent les critiques, 500 personnes à la Thomaskirch, n'est-ce pas?
Ouais.
500, demain, 500 on est 8, musiciens.
Demain, on est 800. Demain, on est 800.
C'est ça.
Non, on est 80.
Justement, mais... Il fallait trouver un compromis, un intermédiaire. J'aimerais t'entendre sur cette question, parce qu'on a un témoin qui passe dans ces années-là à Leipzig, c'est Hector Berlioz. Et donc, d'ailleurs, il dirige, il arrive au Gewandhaus, Mendelssohn lui passe le bâton, il y a un échange de bâtons, n'est-ce pas, de bâtons de chef, hein, entre les deux.
Ouais.
Et lorsqu'il rentre à Paris, Berlioz décrit tout ce qu'il a vu à Leipzig. Et il décrit précisément l'orchestre du Gewandhaus dans les années 40, très précisément. On sait qu'il y avait 8 premiers violons, 8 seconds, 4 altos, 8 violoncelles, 4 contrebasses, les bois par deux, pas de trombone. Voilà, c'est très peu. Ça faisait 47 musiciens. Il y avait 47 musiciens au Gewandhaus de Leipzig. Alors, quel compromis as-tu choisi pour
demain? Alors, du côté de l'orchestre, alors effectivement, on a ces effectifs très précis du Gewandhaus de cette époque-là, et c'est toujours passionnant de nourrir un peu nos propres conceptions par rapport à des éléments historiques, parfois pour les respecter, parfois pour mieux s'en écarter en toute conscience, parce que aujourd'hui on ne joue pas dans les mêmes lieux, parce que les attentes ne sont pas forcément au même endroit, ainsi de suite. Pour ce qui est de l'image de l'orchestre, on va être très proche de ça. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que là, Berlioz nous décrit l'orchestre du Gewandhaus, mais on va dire dans son expression de tous les jours.
Oui.
Après, pour ces grands moments de festivité, on peut imaginer qu'il rajoutait des musiciens venus d'ici ou là, venant d'autres orchestres, et tout ça. Mais on va être exactement, on est à peu près entre, je sais plus, je crois qu'on est 48 ou 49, donc c'est à peu près ça. Oui. On est exactement dans ce qu'était l'orchestre du Gewandhaus de Leipzig. Et pour le chœur, eh bien, on n'est pas 350, on n'est pas même 400 et des brouettes. Non, on sera exactement 10%, parce qu'on est, je crois qu'on est 45.
D'accord.
Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que Saint Thomas de Leipzig, c'est un vaisseau amiral, un vaisseau spatial, dont on sait que l'acoustique... Alors, elle avait déjà un petit peu évolué à cette époque-là, mais on sait que l'acoustique était une acoustique longue, large. Mm-hmm. À mon avis, c'est mieux d'être à l'auditorium de Bordeaux demain soir qu'à Saint-Thomas de Leipzig en 1840, où ça devait être globalement, a priori, une bonne grosse souplette. Donc, voilà. Ce qu'on perd en... Je rêverais un jour d'une expérience Mendelssohn. Parce qu'il y a un compromis qu'on fait, l'air de rien, c'est celui de l'orgue, de l'utilisation de l'orgue.
Alors, oui.
Parce que Mendelssohn demande dans ses grandes partitions, à l'instar un peu de Lias, Paulus, l'utilisation d'un grand orgue,
oui.
Et qui normalement dans les grands outils, où on sort un peu toute l'artillerie, où on joue avec le pédalier, où tout d'un coup il y a presque encore un autre espace dans la symphonie qui peut s'ouvrir. Nous, on est en tournée avec un orgue positif, un orgue positif un peu bodybuildé, mais qui n'a rien à voir avec un grand
Comment
orgue.
Comment est-ce qu'on bodybuilde un orgue?
Non, mais je veux dire...
On rajoute des tuyaux,
ouais. Non, mais... Donc ça, c'est quelque chose qu'on perd. Moi, je rêverais un jour qu'on puisse se dire d'être beaucoup plus nombreux dans le chœur et puis de pouvoir faire ça avec un vrai grand orgue. Mais il faudrait que ce grand orgue soit dans ce diapason bas avec lequel on joue. Donc tout ça est tout un... Voilà.
Oui.
Mais tout ça pour dire que les forces que l'on a là me semblent permettre de conserver l'opulence, la grandeur de l'œuvre, parce qu'elle est large, elle est puissante. Et je crois, j'espère que dans les salles dans lesquelles on joue, notre formation permet de conserver ça. Et en même temps aussi d'apporter, une grande lisibilité, une grande flexibilité, une possibilité de dynamique. Un peu exacerbé par rapport à évidemment un très très grand groupe qui a tendance un peu à comprimer ce que vous pouvez faire à la fois comme théâtre ou comme nuance.
Oui. Alors une dernière question concernant cette symphonie et Mendelssohn. Berlioz, en rentrant justement à Paris, insiste sur le fait que la direction de Mendelssohn et que son travail étaient très liés aux différents plans d'orchestre, et il décrit aussi la manière dont il disposait les instruments, etc. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu spécifiquement dans cette partition, parce que finalement l'orchestre il est assez banal, il y a que les trombones en plus. Qu'il ne met pas partout Mendelssohn, mais il a un orchestre assez commun pour l'époque. Vous voyez, il n'y a pas de harpe, on pourrait avoir une harpe, il n'y a pas de corps anglais, il y a peut-être même encore moins de subtilité de timbre que dans les orchestres baroques du début du XVIIIe siècle, hein, quand la chose est même un peu réduite. Donc, quels sont ces coloris, comment traite-t-il son effectif, qui est assez banal finalement. Quand je dis banal, je veux pas dire qu'on peut rien faire avec un orchestre, mais il y a quand même à son époque plus de coloris chez Weber, par exemple.
Bien sûr. Je crois que tout simplement l'enjeu est ailleurs. Mmh. Tu as tout à fait raison. Ce n'est pas une partition dont la signature est le coloris, le timbre, même s'il y a de très très belles idées, mais l'enjeu est ailleurs. L'enjeu est dans celui de délivrer un message avec la plus grande force de persuasion possible. Je crois que c'est
alors,
ça.
Alors, dans la rhétorique, dans le dramaturgie que tu décrivais
la dramaturgie et dans l'imaginaire que l'on convoque. Par exemple, les trois premiers mouvements, qui sont purement donc orchestraux, avant l'arrivée du chœur, doivent permettre à l'assistance de guetter, de se douter, de commencer à comprendre ce qui les attend derrière, à avoir voilà, une première phase de, qui doit venir vous convaincre avant que les choses soient pleinement confirmées avec l'arrivée du chœur. Je dis ça, par exemple, avec quelque chose évidemment que nous avons perdu, parce que ce n'est pas dans notre culture. Je pense à la culture luthérienne de cette époque-là, du public, qu'il soit d'ailleurs le public allemand ou même le public calviniste anglais. Parce que finalement, il y avait quand même des ponts là, ici et là. Pourquoi ? Parce que le plus grand coup de génie, malgré tout, de Luther, c'est cette idée de fonder l'expression de la foi par ces mélodies immémorielles que sont les chorales et que tout le monde connaîtra et qui seront absolument et perpétuellement donné à chaque office, chacun étant relié à un moment de l'année, à un moment du calendrier liturgique, à un mot, à peut-être une figure, parfois à une action, à, vous voyez ce que je veux dire, il y a tout un imaginaire collectif qui fait que même si vous n'entendez pas le texte et que vous entendez une mélodie dans une symphonie qui se rattache à un choral,
il y a
tout
un
de suite,
sens.
Voilà. Vous comprenez le message qui et si même c'est le grand, par exemple, le cas dans la Passion selon saint Matthieu de Bach, cette idée d'avoir un premier texte qui vous est délivré par les deux chœurs et ensuite que ce texte soit quelque part éclairé, rétro-éclairé par l'arrivée du choral en cantus firmus qui est chanté par-dessus par les maintenant aujourd'hui très souvent par les enfants. Et donc, c'est aussi un instrument théâtral. Et donc, ce que fait Mendelssohn, c'est plutôt. Une grande tribune où il s'adresse à nous pour ce qui semble être peut-être ce qui le définit. J'oserais même dire peut-être s'affranchir de ces questions de savoir s'il est vraiment juif ou vraiment luthérien ou vraiment chrétien. Hein, de dire en fait, finalement, pardonnez-moi, mais est-ce que c'est vraiment ça le principal? Moi, je suis là pour vous parler de lumière. Je crois que c'est vraiment ça son enjeu, et donc cette manière aussi qui je trouve est une signature de Mendelssohn, un homme qui n'a jamais vieilli. Je trouve que toute sa musique, la majeure partie de sa musique, et c'est très net dans l'Obgesang, est une musique incroyablement juvénile. Elle a cette générosité de la musique d'adolescente où tout est donné avec une sorte de légèreté. Il n'y a pas beaucoup de kilos. C'est-à-dire qu'on pourrait se dire que c'est une grande œuvre un peu lourde avec ses grosses fugues, ses gros machins un peu bedonnantes. Bah non, en fait, elle est malgré tout incroyablement légère. On pense aussi, je pense aussi évidemment à ce qui était un peu une signature de son orchestre. Une des pièces les plus célèbres pour orchestre, c'est son Songe d'une nuit d'été, avec cette musique un peu d'elfe, cette musique un peu furtive.
On est un peu dans le deuxième mouvement.
Moi, je trouve partout.
Oui.
Et donc l'enjeu est ailleurs, il est donc pas sur les timbres, il est plutôt sur cette grande construction rhétorique et théâtrale de nous délivrer ce message. Et puis il est aussi sur le dialogue, je pense à une pièce qui est un peu aussi un autre moment clé de l'œuvre qui fait dialoguer à la fois le chœur, le corps, l'orchestre, les deux solistes, qui est une sorte de moment d'intimité charnel, presque un peu maternel. Voilà, moi je trouve que c'est une musique incroyablement humaine, humaniste, et qui peut-être veut faire un tout petit peu la chasse à ces questions d'étiquette, de définition trop précise, et de vouloir nous dire un peu l'essentiel. Une sorte un peu, ce que je te disais tout à l'heure, je trouve que c'est presque un peu sa messancie à lui.
Ouais. Alors ça, rendez-vous demain soir pour entendre l'Obgesang symphonie. Une dernière question qui n'a pas à voir avec tout ce que tu fais ici à Bordeaux, Raphaël, et puis ce sera une dernière question avant de passer aux questions du public, mais ta carrière de chef d'orchestre au sein d'autres phalanges de musiciens est déjà bien lancée et avancée. En fait, on te voit toujours à Bordeaux avec Pygmalion, n'est-ce pas? Mais peux-tu nous parler, avant de nous quitter, de ta carrière de chef d'orchestre? Avec quel répertoire? Avec quel musicien Quand a-t-elle débuté? Où en es-tu dans ta carrière de chef avec d'autres phalanges de musiciens et pas ton groupe, celui que tu as fondé?
Eh bien, il y a plusieurs questions qui sont mêlées. La première question, c'est que les musiciens qui composent Pygmalion, pour certains, sont avec nous une grande, voire même la majorité de l'année. Mmh. Et malgré tout, on a cette chance, cette spécificité française, cette grande signature française qui est une incroyable richesse, qui est cette intermittence, ce qu'on appelle l'intermittence. Mmh. Malheureusement, le mot a été mal choisi, mais malgré tout, ce système est extraordinaire parce qu'il permet aujourd'hui en France, il nous est envié partout dans le monde. Je pense au fait que mes musiciens, en gros, vont voir ailleurs si j'y suis, ils vont voir ailleurs s'ils y sont. Et ils ont cette possibilité de voir d'autres façons de faire de la musique, mmh. de voir d'autres musiciens, d'autres cultures, d'autres grammaires, d'autres langages. Voilà. Et donc, moi, je me suis toujours dit que c'était important pour moi de pouvoir aussi vivre ça. Mmh. Sauf que longtemps, je m'en suis senti pas capable, parce qu'il y a cette peur de l'ailleurs. Vous dites, moi, mes musiciens, ils me connaissent bien, même si je fais un peu des bêtises, mmh. eh bien, ils compensent. Et si je me retrouve face à d'autres musiciens, bah, ils vont me cracher un peu à la figure, mais quatre vérités sur ce que je ne fais pas bien, ce que je ne sais pas faire. Mais hein, donc c'est à la fois très positif et voilà. Donc il y a eu une petite phase d'abord d'appréhension, et puis en fait, j'oserais dire d'abord d'emmagasiner suffisamment d'expérience mmh. avec Pygmalion avant de petit à petit. Voilà, j'ai toujours été régulièrement chef invité, mais mmh. je me suis toujours largement limité, j'ai toujours beaucoup refusé certaines choses, et largement limité à aussi peut-être quelque chose qui est un peu dans l'air en ce moment, qui n'est pas très intéressant et pas très important, mais qui est quand même dans l'air, c'est le fait que beaucoup d'orchestres permanents, beaucoup de structures d'orchestres permanents ont une grande volonté d'ouverture aujourd'hui, ce qui mm-hmm. est un aspect très positif. Oui. Mais donc font appel...
Sur les répertoires...
Voilà. Mm-hmm. Donc par exemple, un orchestre permanent... qui normalement joue essentiellement le répertoire romantique et qui va dire on va faire le Messie de Handel, ça serait super pour ça d'inviter un chef baroque. Mm-hmm. Voilà. Mais finalement, c'est aujourd'hui des moments où on touche certaines limites qui sont liées à la rencontre de ces mondes-là, à mon sens, à vouloir convier, à essayer mm-hmm. à ce qu'un orchestre permanent joue comme un orchestre baroque. Aussi. Mm-hmm. Des expériences qui, à mon sens, sont vouées un tout petit peu au compromis. Donc oui. voilà, donc il y a beaucoup de choses que j'ai pas voulu faire, et puis aujourd'hui on me propose, j'ai la chance qu'on me propose et que je commence un peu plus à me faire confiance sur d'autres répertoires.
Oui.
En fait, des lieux de rencontre peut-être encore plus passionnants entre un orchestre permanent et des parcours un peu plus singuliers comme le mien, mmh. et des points de rencontre. Je pense que ça peut être Mozart par exemple, c'est un point de rencontre intéressant. Ça mmh. peut être le répertoire du XXe siècle, ça peut être des œuvres déclassées ou des œuvres inconnues. Donc c'est plutôt des choses comme ça qui m'animent, ou alors d'aller vraiment loin. Je parle loin géographiquement, et notamment de sortir de l'Europe, qui est un monde assez petit dans le monde de la musique. Donc voilà. Et maintenant, aujourd'hui, effectivement, j'ai une aventure américaine là, qui est en train de mm-hmm. se concrétiser. Où je vais
tu
prendre
peux
un
nous
peu...
en parler un peu?
Oui, c'est une aventure à Boston, avec ce qui est le plus vieil orchestre des États-Unis, qui date de 1808. Et qui s'appelle la Handel and Haydn Society, uh-huh. et qui a créé justement la 9e de Beethoven, la création de Haydn. C'est l'orchestre qui a commandé la 10e symphonie de Beethoven, qui n'a jamais eu lieu. Qui a créé le Requiem de Verdi, le Requiem de Brahms, qui fait les premières américaines, et qui est à la fois un chœur et un orchestre. Uh-huh. Alors le chœur, il est réputé comme étant l'un des, voire le meilleur chœur aux États-Unis. Uh-huh. Très très bon chœur. Et l'orchestre, c'est un orchestre un peu particulier, parce qu'il est sur instrument d'époque depuis 1971. Donc, ce qui est un peu d'un, c'est un peu un truc de geek, ça, mais
oui.
c'est quand même un truc un peu dingo parce qu'aux États-Unis, 1971, c'est vraiment on est très très loin pour que mm-hmm. donc ils ont commencé bien avant tout le monde. Et c'est un orchestre qui s'est un peu disparu des radars pendant 20-25 ans et qui a été repris par un nouveau directeur depuis 4 ans. Et qui a envie de voilà qui porte des nouvelles ambitions. C'est un orchestre qui se produit dans une salle extraordinaire qui est le Boston Symphony Hall, mm-hmm. qui est une magnifique salle incroyable de 3000 places, fin 19e, et qui est avec une acoustique absolument mythique. Voilà, et on va y faire pas mal de projets, notamment de projets 19e
Allemand, toujours, répertoire allemand.
Pas que, on va, je vais faire pas mal de Beethoven avec eux. Là, je viens de faire des Noces de Figaro pour la première fois. Et puis, justement, ça va être aussi un peu l'idée d'aller un peu ailleurs. Il y a même peut-être un peu du Verdi, des choses comme ça. Donc,
mais finalement, donc, c'est juste en face de Bordeaux. Hein.
Oui, c'est
juste
vrai.
Traverser.
C'est pas faux.
Merci beaucoup.
Non, mais c'est passionnant parce que ça permet de... Voilà, et puis, il y a d'autres rendez-vous. Là, l'été prochain, je vais faire une chose un peu... Aussi, on verra ce que ça raconte, mais comme type de rencontre, mais je vais faire des Noces de Figaro en scène, une nouvelle production en scène avec l'Orchestre Philharmonique de Vienne.
Oui.
Et là aussi, où on peut imaginer que c'est voilà, et la saison prochaine aussi, il y a d'autres choses, d'autres beaux débuts
en Europe également.
En Europe, où je suis aussi très très curieux de, et hyper excité de voir ce que ce type de rencontre peut. Et maintenant, je crois aussi beaucoup plus serein à l'idée que si ça marche pas, bon, c'est pas grave, quoi.
Toi, à la fois pour demain soir et puis pour tous nos voeux, pour
merci
Boston et tous
merci
les autres
Karine
projets. Merci beaucoup, Raphaël Pichon.
Merci à toi. Merci.